Vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel bonheur de vous retrouver et de commencer le week-end en votre compagnie. Nous voilà bien, vous délivre ce matin sa dose habituelle de bons conseils, de chlorophylle et de gourmandise. Vous avez l'eau à la bouche? Alors c'est parti, sommaire. En cette période tendue sur le marché de la location d'appartements, notamment pour les étudiants, les arnaques prolifèrent. Comment éviter les pièges et savoir lire entre les lignes des petites annonces? C'est la question que nous poserons dans un instant à Laetitia Caron, directrice générale de PAP.fr. S'envoler vers la forêt amazonienne sans bouger de son canapé, ça vous tente? Alors faites entrer la jungle chez vous grâce aux plantes tropicales XXL, car oui, la taille, ça compte. Palmiers, bananier, quelle plante choisir? Réponse avec Pierre Nesman, paysagiste et rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique, que nous surnommerons Tarzan ce matin. La fin de l'été approche, mais point d'amertume, car la saison est idéale pour faire de bonnes confitures qui viendront égayer vos petits déjeuners tout l'hiver et vos pauses gourmandes. Mais comment réussir sa confiture maison et varier les saveurs? Sonia Esgulian, cuisinière et journaliste, sera notre Lady Marmelade ce matin.
Ce soir, je te préviens, on déménage. Ce soir, on déménage tous les étages.
Alors, quand Brigitte Bardot veut déménager, évidemment, tout le monde suit. Hein. Nous, quand on veut déménager, on cherche toujours des bras. Mais bon, tout le monde n'est pas Brigitte Bardot. Bonjour Laetitia Caron.
Bonjour Flavie.
Soyez la bienvenue sur RTL. Merci d'avoir accepté mon invitation ce samedi matin. Vous êtes directrice générale de PAP.fr, que l'on peut également appeler particulier à particulier.fr. Alors, dites-nous, le marché de la location immobilière, il est particulièrement tendu en septembre. Je pense notamment aux étudiants. Est-ce que le stress est l'ennemi, je dirais, de la vigilance? Est-ce que c'est le meilleur moment, finalement, pour nous arnaquer?
Eh bien, malheureusement, oui, parce qu'en effet, comme vous l'avez dit, là, les étudiants reviennent tous en présentiel, et ça, c'est une bonne nouvelle pour eux, mais ils reviennent tous en même temps, et le marché de la location, bah, du coup, est un peu déséquilibré, c'est-à-dire qu'en ce moment, il y a plus de gens qui cherchent que de gens qui offrent.
Ça nous rappelle quelques souvenirs quand on était étudiant et qu'on faisait la queue dans des escaliers et qu'on était prêt à tout donner pour avoir cette location de peur de ne pas avoir de toit à la rentrée. Laetitia Caron, quelles sont les principales arnaques à la loc que vous observez dans les annonces proposées à la publication sur PAP?
On va dire qu'il y a deux grandes catégories. La première, c'est que les escrocs cherchent à obtenir de l'argent frauduleusement. Ils créent justement ce sentiment d'urgence et de stress, ou en tout cas, ils cherchent à y répondre. Et donc, ils proposent aux locataires d'envoyer de l'argent avant même d'avoir visité le logement, pour le réserver, pour le bloquer.
Oh là là.
C'est vraiment le type d'arnaque le plus répandu. Le deuxième type d'arnaque qu'on trouve, c'est le fait de leur demander d'envoyer le dossier par mail avant la visite aussi. Et là, leur objectif, c'est d'obtenir les pièces, donc les bulletins de salaire, en général des parents qui vont être caution, les pièces d'identité, etc. Et ça, c'est pour créer des faux dossiers prêts à la consommation.
Ah, voilà. D'accord, ok. Donc, grosse méfiance, effectivement. En tout cas, il faut que les choses se fassent dans les règles de l'art, on le rappellera tout à l'heure. Justement, comment est-ce qu'on peut se prémunir de ces arnaques quand on cherche un appart à louer, qu'on soit étudiant ou qu'on déménage en ce moment?
Première chose, ne jamais envoyer d'argent avant d'avoir visité le logement, quel que soit le motif.
Ouais.
Ne jamais envoyer son dossier avant non plus. On remet son dossier au propriétaire au moment où on visite le logement. Et puis, plus largement, ne pas croire à la bonne affaire. Elle n'existe pas, malheureusement, la bonne affaire. Il n'y en a pas. Il y a un prix de marché. Quand une annonce paraît vraiment trop bien par rapport au prix de marché, à part si c'est par relation, bon là on n'en parle pas, mais quand c'est sur un site et qu'on n'a pas de connaissance du propriétaire, alors on n'y croit pas et on ne se laisse pas berner par ça et on ne se laisse pas embarquer par la croyance d'avoir trouvé cette bonne affaire. N'existe pas.
Quid des commissions d'agence si on passe par une agence immobilière où vous savez les cautions qui sont demandées par le propriétaire? Est-ce qu'elles doivent être clairement affichées à l'avance et est-ce qu'il y a finalement un montant à ne pas dépasser?
Absolument, donc elles doivent être clairement affichées dans l'annonce ou dans la façade de l'agence quand on vient en direct. Et elles sont aujourd'hui très réglementées par la loi Allure, donc elles oscillent entre 11 et 15 euros du mètre carré en fonction de la zone sur laquelle se situe le logement. Le plafond à 15 euros étant les zones tendues, donc les très grandes villes universitaires sont évidemment concernées.
On se pose toujours la question, vous savez, sur les, je pense aux étudiants, hein, sur les superficies des appartements, et parfois on voit des appartements qui sont proposés à la location, qui sont des boîtes à chaussures, Laetitia. Quelle est la superficie minimum légale d'un appart pour la loc?
Au minimum, l'appartement doit faire 9 mètres carrés et il doit faire au minimum 2,20 m de hauteur sous plafond. Évidemment, il doit aussi contenir des fenêtres d'ouverture. Ça peut être évidemment des fenêtres en façade, éventuellement un Velux quand on est dans des chambres de service mansardées, mais il doit obligatoirement y avoir une ouverture, évidemment.
Ok. Meublé ou non meublé, il y a une différence pour le bail, je crois.
Il y a une différence d'abord sur l'équipement, puisque le meublé doit intégrer l'ensemble de l'équipement qui permet de vivre au quotidien. En gros, le locataire arrive avec sa valise, si j'ose dire. Donc, il doit y avoir un lit, une table, des chaises, la vaisselle, le linge, etc. Et puis, il y a une différence sur la durée. Donc, un bail meublé classique et d'un an minimum renouvelable automatiquement. Il y a également des formes de baux meublés un peu moins répandus, mais des baux type étudiant de 9 mois, mobilité 10 mois. Et en revanche, si le logement est vide, la durée du bail est de 3 ans renouvelable. Ce qui est important à retenir pour les étudiants et pour les locataires plus largement, c'est qu'en fait, cette durée, elle engage le propriétaire et elle ne permet pas au propriétaire de récupérer son appartement en cours de route facilement. Mmh. Le locataire, lui, en revanche, est toujours libre de quitter le logement avant la fin du bail, moyennant un préavis qui est d'un mois en meublé et qui peut aller de 1 mois à 3 mois en vide en fonction du secteur.
Les pièges à éviter au moment de l'état des lieux. J'ai vraiment le sentiment qu'il ne faut rien laisser passer, quitte à paraître un petit peu tatillon, non?
Tout ce qui n'est pas noté sur l'état des lieux est considéré être en bon état. Donc s'il y a des choses qui sont abîmées ou des éléments qui ne fonctionnent pas, donc il ne faut notamment pas hésiter à faire couler les robinets, à faire fonctionner le four, etc. pour vérifier que tout fonctionne, il faut le notifier sur le bail. Mmh. Le locataire doit quand même savoir qu'une fois que l'état des lieux est signé, il peut, dans les 10 jours qui suivent son installation, faire un modificatif à cet état des lieux en envoyant un courrier à son propriétaire.
D'accord, mais ne rien laisser passer.
Hein, absolument.
Voilà, quitte à paraître,
tout noter.
Quitte même à ce que ça paraisse désagréable. Oui, c'est ça, on se dit, je vais essayer de ne pas passer pour un casse-pied. Et donc, du coup, effectivement, on a tendance à laisser passer des choses qui nous reviennent un petit peu dans la figure comme un boomerang,
oui, alors
un peu plus tard.
Gentiment.
Bien sûr.
Mais en effet, on le note.
Très bien. On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, sur cette antenne. Laetitia Caron, encore des questions à vous poser au sujet de la location pour louer en toute sécurité. Et puis ensuite, on parlera des plantes tropicales XXL, un intérieur jungle dans votre appartement. Et enfin, Sonia Esguignan nous emmènera faire des confiottes. C'est vraiment la saison et qu'est-ce que c'est bon. À tout de suite sur l'antenne d'RTL.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà faire.
Nous voilà bien sur RTL.
Avec Flavie Flamand.
Les plantes tropicales, est-ce que vous avez un bananier chez vous, un palmier, je sais pas, vous savez que vous pouvez faire rentrer carrément l'ambiance tropicale dans votre appartement avec des plantes XXL. Oui, la taille ça compte madame, oui monsieur. On parlera des confitures maison parce que c'est la saison, avec une super recette en fin d'émission, confiture de tomates vertes par Sonia Esguignan. Mais pour l'heure, Laetitia Caron nous prévient justement pour ne pas nous faire arnaquer pour notre prochaine location. Merci d'être avec nous, Laetitia Caron. Vous êtes directrice générale de particulier@particulier.fr. Le propriétaire, est-ce qu'il a le droit, vous allez me dire que non, mais voilà, dans son annonce, mais je voudrais quand même qu'on le répète, de refuser un locataire sur la base de certains critères. Origine ethnique, sexe, âge, apparence physique, orientation sexuelle, on est bien d'accord que ça, c'est interdit.
En effet, le propriétaire n'a pas le droit de refuser un locataire pour un de ses motifs. Il
évidemment
ne peut faire aucune discrimination. En revanche, le propriétaire, il faut quand même le rappeler, a le droit de choisir son locataire. Donc, à dossier égal, il peut parfaitement choisir le locataire qu'il souhaite. Mais absolument pas sur un motif de discrimination tel qu'on vient de l'évoquer.
Alors, qu'il y ait discrimination ou qu'il y ait arnaque, tentative d'arnaque, qu'est-ce qu'ils risquent justement ces propriétaires indélicats lorsqu'on les identifie? Qu'est-ce qu'on doit faire déjà et qu'est-ce qu'ils risquent?
Alors, c'est distinct en arnaque et en discrimination. En discrimination, ce qu'il risque, c'est que le locataire saisisse un tribunal et fasse valoir ses droits. En arnaque, ce qui est plus compliqué, on va pas se mentir, c'est que nous, par exemple, on identifie des annonces qui sont frauduleuses. c'est compliqué d'identifier qui est derrière.
Ouais, je comprends. Merci beaucoup de nous avoir éclairé de la sorte, Laetitia Caron. Vos conseils étaient avisés. Je rappelle que vous êtes directrice générale de particulier-à-particulier.fr. Je vous souhaite un bon samedi, Laetitia.
Merci,
et à bientôt dans Nous Voilà Bien. Au revoir.
Au revoir.
C'est mon mari. Bonjour Pierre Nesman.
Bonjour Fabi, bonjour à tous.
Alors, ça va Tarzan ?
Ben oui, je m'habille, j'arrive.
Hein. Oh, ben ça va, vous allez vous habiller rapidement parce que j'ai jamais connu Tarzan très habillé, moi. Soyez le bienvenu dans Nous Voilà Bien, Pierre Nesman. Vous êtes descendu de votre cocotier ?
Oui.
Bon. Vous êtes paysagiste, rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique, rédacteur en chef de l'émission Mission Vigitale diffusée sur M6. On va parler aujourd'hui des plantes exotiques et tropicales, un peu XXL qu'on peut mettre chez soi. C'est la tendance, ça, en fait. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un besoin de verdure, un besoin d'être un peu dehors dans son propre appartement. Est-ce que c'est lié aussi au confinement, cette nouvelle mode?
Oui, c'est tout à fait ça. C'est un ensemble de choses. On a envie de recréer un peu de nature à l'intérieur des maisons. Et c'est justement tout à fait possible grâce aux plantes vertes. Alors, on va choisir essentiellement des plantes qui ont des développements assez volumineux. Et ça, ça existe. Il y en a qui ont des grandes feuilles, qui ont des tiges assez hautes et qui vont déjà donner une illusion de petit arbre. Donc, forcément, quand on en met plusieurs ensemble, eh bien, on va avoir ce sentiment d'opulence, ce sentiment de jungle.
Et si mon appartement, il est tout petit, il y a quand même une plante exotique que je privilégie ou est-ce que je reste avec un papier peint à motifs tropicaux?
Non, on va pouvoir effectivement utiliser des plantes qui vont avoir un développement plus volumineux. Alors, on en mettra peut-être moins en fonction de la taille de l'appartement. Bon, alors, quelques noms comme ça pour vous donner des pistes. Vous avez les palmiers, l'areca, le kensia, qui sont des sortes de palmiers qui vont avoir un aspect très exotique, très classique, le philodendron. Et il peut y avoir aussi des ficus, des bananiers, les dragonniers, les pachyras. Vous voyez, il y a pas mal de plantes. Ouais. On peut vraiment créer de la diversité.
Pierre Nesman, on parle de cette tendance et en fait, quand je vous écoute, je me dis, mais même dans un appartement petit, vous nous dites qu'on peut finalement mettre une plante exotique. Ça prend presque la place d'un meuble, surtout ces plantes un peu XXL. Est-ce que certaines espèces peuvent devenir envahissantes? J'entends par là, est-ce que ça peut prendre la moitié de mon salon si tout à coup elle se plaît chez moi, cette plante?
Alors là, il y a deux types de comportements. Vous avez des plantes type palmier, strelidia, calathea, elles vont se développer en largeur. Okay. En revanche, vous avez des plantes comme les ficus, les philodendrons, qui eux vont avoir une croissance plutôt ascendante. Et effectivement, si les conditions lui conviennent, si vous avez la main verte et que ça marche bien, elles peuvent devenir assez envahissantes. Et dans ce cas-là, on va effectivement pouvoir les tailler. On va le faire au printemps, lorsque la végétation est en pleine croissance, je dirais. Et puis, on va enlever environ un tiers de l'ensemble des rameaux.
Et vous savez, il y a aussi certaines plantes exotiques qui, normalement, donnent des fruits. Est-ce qu'un bananier d'intérieur, ça peut donner des bananes?
Non, malheureusement. Oh. Ça peut fleurir si vous l'avez dans une véranda, effectivement. Il va pouvoir porter et développer un petit régime de fleurs. Elles vont s'épanouir. Mais de là à ce que les bananes finissent par mûrir, c'est très très rare parce qu'il faut vraiment qu'elles soient à l'extérieur, en plein air et dans des conditions assez constantes de chaleur et de lumière.
Et alors justement, vous parlez de chaleur, de lumière et tout. Est-ce qu'il faut que je monte le chauffage et que j'humidifie l'air et que je me mette en maillot de bain quand même s'habituer à mon appartement?
Ils vont s'habituer. En été, évidemment, il fait assez chaud dans les appartements. Donc ça leur convient bien. En hiver, on a le chauffage centrale qui permet d'avoir des températures qui avoisinent les 18 à 20 degrés. Ça fonctionne, mais il y a un point de détail. Dans nos appartements, dans nos maisons, l'air est beaucoup trop sec par rapport à l'environnement d'origine de ces plantes qui ont besoin d'humidité. Et donc, dans ce cas-là, on va vaporiser le feuillage avec de l'eau ou on va mettre des soucoupes remplies de gravier avec de l'eau de manière à ce que par évaporation, eh bien, cette eau humidifie l'atmosphère et ça va donc bénéficier à ces plantes XXL.
Et alors, dites-moi, à propos d'eau, ça boit beaucoup?
Ça va boire en fonction de la saison. Mmh. Évidemment, en plein été, quand il fait très chaud, les plantes vont boire déjà pour s'alimenter, mais aussi pour évaporer. Elles évaporent de l'eau, donc elles vont consommer de l'eau par les feuilles. C'est un peu comme nous, elles transpirent quand il fait très chaud. Dans ce cas-là, il va falloir les arroser. Puis en hiver, lorsque les températures sont plus basses, elles consomment beaucoup moins d'eau. Donc je dirais que c'est vraiment une question de doigté. Il va falloir regarder le substrat, c'est-à-dire le terreau. Lorsqu'il est humide, on n'arrose pas. lorsqu'il est sec sur 3, 4, 5 cm de profondeur, on va arroser. Et ce qu'il faut surtout, surtout, c'est éviter d'arroser de manière très régulière pour éviter d'asphyxier les racines et d'avoir un substrat qui soit constamment, constamment humide.
Encore plein de questions à vous poser, Pierre Nesman. Le temps pour vous d'enlever votre peau de bête et on se retrouve tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Dans un instant, on va faire des confitures maison avec Sonia Esgulian. Mais oui, pourquoi les acheter alors qu'on peut les faire ce week-end? Allez, elle nous donnera des recettes en fin d'émission. Mais pour l'heure, vous voyez qui se cache derrière ce bananier? C'est Pierre Nesman. Notre Tarzan national, Pierre Nesman. C'est intéressant, hein, aujourd'hui on parle des plantes exotiques XXL qu'on peut mettre chez soi. Je pense tout simplement au déménagement, Pierre. Quand on s'en va, ça doit prendre de la place, ces grosses plantes. Donc ça nécessite, j'imagine aussi, des gros pots. Et donc ça doit être très lourd.
Effectivement, il faut des grands pots. Alors d'abord parce que ce sont des plantes qui sont volumineuses, donc elles vont avoir besoin d'avoir de la terre pour développer des racines et puis effectivement alimenter toutes ces feuilles. Et puis aussi le pot, il a un intérêt en matière de stabilité, c'est-à-dire qu'un grand pot va permettre à ces grandes plantes de se tenir, de se stabiliser dans votre intérieur et de ne pas tomber sous le poids des feuilles. Donc effectivement, c'est des plantes qui sont assez volumineuses tant au niveau du feuillage qu'au niveau du contenant.
Et comment je les nettoie, ces plantes ?
Ce qu'il faut savoir d'abord, pourquoi les nettoyer, c'est que vous avez dans l'atmosphère de nos intérieurs des petites particules de poussière qui vont se déposer sur les feuilles. Alors les feuilles, elles respirent, elles transpirent, comme on l'a vu tout à l'heure, par des petits orifices que l'on appelle des pores. C'est un peu comme nous, hein. Les feuilles ont aussi des pores qui permettent des échanges gazeux entre l'atmosphère et la feuille. Et donc quand sur ces feuilles se dépose de la poussière et des saletés, eh bien la feuille est beaucoup moins performante. Donc de temps en temps, il faut passer sur les grandes feuilles un chiffon avec de l'eau un peu tempérée. On nettoie la feuille. Et puis quand on a des plantes vertes avec un feuillage beaucoup plus fin, qu'on peut éventuellement les déplacer, moi je conseille de les mettre sous la douche, un petit coup de douche avec une eau très très tempérée, pendant quelques secondes, ça nettoie les feuilles, on les laisse égoutter, puis on les remet en place dans sa pièce.
Voilà, faut pas que ça pèse trop lourd, évidemment, hein, pour aller sur la douche.
Pour pouvoir les déplacer.
Mais voilà, c'est ça. Et donc d'ailleurs, tiens, j'y pensais, est-ce que la solution, ça n'est pas de les mettre, vous savez, sur des petites planches à roulettes?
C'est plus pratique, effectivement, non seulement pour pouvoir les déplacer, mais aussi pour faire le ménage.
Dans quelle pièce est-ce que je les mets, mes plantes exotiques ?
C'est des pièces qui sont suffisamment lumineuses. Ce sont des plantes, pour la plupart, qui ont besoin de lumière. Alors, la lumière, qu'est-ce que c'est ? C'est une orientation sud, est, ouest d'une pièce, de manière à ce que ces plantes bénéficient d'un maximum de lumière. Et lorsque le soleil plein sud est un peu violent, on va tamiser avec un rideau. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'une pièce qui est orientée au nord ne va pas pouvoir accepter, enfin recevoir des plantes d'appartement. Une pièce au nord, ça ne veut pas dire une pièce totalement sombre. Il y a certaines plantes qui s'adaptent, hein, qui s'accommodent à ces conditions moins lumineuses et qui vont justement pouvoir donner cet effet d'exubérance, même dans une pièce qui n'est pas forcément ensoleillée.
Est-ce qu'on peut les mettre dans des chambres ? On nous dit toujours qu'il ne faut jamais mettre... Ah
Alors, mais moi, je vais tordre un peu cette réputation.
Qu'est-ce qui se passe ?
En fait, vous savez que les feuilles, par la chlorophylle et sous l'action de la lumière, vont produire de l'oxygène. Et finalement, c'est cet oxygène que nous respirons et que les plantes vont aussi respirer. Toutes les plantes qui sont à l'intérieur comme à l'extérieur, elles en produisent énormément. Et puis pendant la nuit, elles ne produisent plus d'oxygène, mais comme nous, elles vont respirer. Donc elles vont consommer de l'oxygène et rejeter du gaz carbonique. Mais je rassure tout le monde, il y a tellement de production d'oxygène à la fois dans nos intérieurs, dans notre environnement, qu'il y en a suffisamment pour que nous et les plantes, nous puissions respirer pendant la nuit. Donc pas de risque d'asphyxie. Vous rassure, on peut ouvrir le matin les fenêtres et puis tout se passera bien.
Est-ce qu'on tord le cou aussi à l'idée que les plantes peuvent soit nous intoxiquer, soit purifier l'air ?
Oui, on va tordre le cou aussi. Alors nous intoxiquer, non, hein, évidemment pas en les respirant, alors en les mangeant. Il faut faire attention, effectivement, à certaines espèces. Mais en revanche, elles ne vont pas intoxiquer l'air. En revanche, elles ne vont pas non plus le purifier. Elles ne vont pas non plus le dépolluer. Elles vont, en revanche, et ça, on a des tests qui le démontrent, hein, sur des pièces, elles vont pouvoir capter certains polluants, comme notamment les colles qu'on utilise pour les revêtements de sol ou pour coller du mobilier. Mais c'est tout. Elles vont capter ces éléments-là, mais elles ne vont pas purifier l'air. Elles ne vont pas dépolluer. Là, c'est une une idée qui est un peu fausse, malheureusement.
Et les plantes exotiques, est-ce qu'elles peuvent être aussi victimes d'assauts, de petites bestioles, de petites mouches, d'araignées rouges, d'insectes ?
Effectivement, comme toutes les plantes d'appartement, quand elles sont cultivées dans des conditions qui sont un peu trop chaudes, un peu trop sèches, eh bien on peut voir apparaître des cochenilles farineuses. Ce sont des petites bestioles qui sont cotonneuses. On peut avoir de la cochenille bouclier, on peut avoir de l'araignée rouge.
Ce sont des petites plantes.
Il faut dans ce cas-là, premièrement, préventivement, humidifier l'atmosphère, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mettre des soucoupes, pulvériser le feuillage. Et puis si vraiment on a une attaque qui est un peu importante, on va pulvériser eh bien, du savon noir, une solution d'eau et de savon noir. Eh bien, ça va désagréger et éliminer ces insectes parasites.
Merci beaucoup Pierre Nesman d'avoir accepté mon invitation et de nous avoir conseillé de la sorte. C'était super intéressant et je vais chercher mon bananier cet après-midi. Merci à vous.
Merci Flavie.
Je rappelle votre nouveau livre, Mon jardin. S'adapte au changement climatique chez Delachaux et Niestlé. Vous restez à notre écoute parce qu'on va faire des confitures dans un instant avec Sonia Esguillon.
Très bien.
À bientôt, Pierre Nesman.
À bientôt.
Je suis représentant en confiture et j'ai toujours des semaines très dures. Par ici, c'est la groseille qui marche.
Ce matin, Sonia Esguillon.
Et là-bas, c'est l'abricot, plus loin la fraise.
On vous a réservé un petit Pierre Perret ce matin, Sonia Esguillon.
Oui, c'est chouette, c'est joyeux en tout cas.
C'était le zizi ou le représentant en confiture, mais on s'est dit que le représentant en confiture était peut-être un petit peu plus approprié au sujet du matin.
Oui, je pense.
Soyez la bienvenue.
Merci.
Vous êtes cuisinière, auteure, journaliste. On conseille votre page Instagram à votre nom. La confiote, c'est tellement de souvenirs d'enfance. Je vois encore ma grand-mère faire de la confiture à la rhubarbe dans cette grande bassine en cuivre avec le sucre qui faisait des glouglous et ce parfum comme ça qui se diffusait dans cette vieille maison et j'en garde des souvenirs émus. Quels sont les fruits qui sont les plus indiqués pour faire des confitures et est-ce qu'il y a aussi des fruits qui ne s'y prêtent pas ?
On peut pratiquement faire de la confiture de tout, même de légumes. On peut même faire des confitures d'aubergines. Les fruits, à peu près tous les fruits qu'on a de saison. Ouais. Alors pour les fruits exotiques, c'est un tout petit peu plus difficile parce qu'en fait, ça dépend aussi de la texture, de l'humidité en fait du fruit. Donc c'est sûr que si vous faites une confiture de fruits de la passion, c'est pas très fastoche.
D'accord.
Mais en revanche, de tous les fruits qu'on a en ce moment, par exemple, il y a les dernières fraises, c'est fantastique, les framboises, les figues, tous les fruits qui ont beaucoup de pectine aussi, comme la pomme, le coing. En ce moment, ouais. Il y a le début de la saison du coing. Donc en général, on fait pas mal de gelée aussi, avec le coing ou de la pâte de coing. Mais tous les fruits à peu près de saison et de nos régions, on peut faire des confitures.
Est-ce qu'on les choisit très mûrs, ces fruits ?
Oui, on a en fait le résultat de ce qu'on choisit. Plus le fruit est beau, bien mûr, on va avoir une confiture qui va être très goûteuse et qui aura beaucoup de sucre naturel. Avant, on faisait de la confiture, on disait tant pour tant. On mettait un kilo de fruits,
mais
un kilo
c'est
de...
C'est ce que faisait ma grand-mère, de sucre.
Bon, alors ça, c'est sûr, ça se conservait bien. Mais... Mais en fait, les goûts ont changé.
Oui.
Et puis, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a envie de manger beaucoup moins sucré.
Oui, oui.
Je pense qu'on peut mettre facilement 1 kg de fruits, 500 grammes à peine de sucre. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que si on fait des confitures moins sucrées, on peut, par exemple, en conserver au frais. Par exemple, on a des très bonnes fraises, et ben on fait deux petits pots de confiture, on va les conserver au réfrigérateur.
On va se retrouver dans un instant. Beaucoup de questions à vous poser. Et puis, vous allez me dire s'il faut effectivement que je me rachète une grande bassine en cuivre, hein, ou si je peux la faire différemment. À tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
Sucré. Nous voilà bien sur RTL.
Avec Flavie Flamand.
C'est trop bien parce que ce matin, eh bien, on fait des confitures avec Sonia Esguillon et ça réveille les papilles gustatives. Ça réveille les papilles gustatives et ça réveille évidemment la nostalgie. Sonia Esguillon, on a compris qu'on pouvait moins sucrer aujourd'hui les confitures. À une époque, c'était très simple. 1 kg de fruits, 1 kg de sucre. Maintenant, on va faire 1 kg de fruits, 500 grammes de sucre. Très rapidement, est-ce qu'on peut remplacer le sucre par des édulcorants artificiels ? Je pense à ceux qui nous écoutent et qui se disent « je veux pas grossir », même si c'est pas terrible, l'aspartame, la stevia et tout.
On peut tout à fait. Après, c'est une question effectivement de conservation. Tout dépend la dose qu'on va mettre. Et puis surtout, on peut faire des confitures aussi avec d'autres sucres. Le sucre de coco, on peut en faire même avec du miel. Ça, c'est hyper intéressant. Et on la conserve, comme je vous l'ai dit, au réfrigérateur. Ça, c'est tout à fait possible de la conserver si on met très peu de
sucre. C'est plus sain que l'aspartame. Hein.
Surtout que la confiture, ça reste quand même le petit moment gourmandise. On n'est pas obligé d'en manger tous les jours, mais c'est d'abord un grand moment quand on la prépare. Ouais, on parlait tout à l'heure de la bassine en cuivre. C'est quand même génial de faire ses confitures, ça sent très bon. En plus, souvent, on peut le faire avec les enfants, c'est chouette, il y a tout un rituel. On la met en pot, on va mettre des petites étiquettes, on peut les décorer. La confiture, on va pouvoir l'offrir aussi. C'est lié à beaucoup de moments. Donc, tant qu'à faire, peut-être pas à l'aspartame, quoi.
On est d'accord. Bon, alors concrètement, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont jamais fait de confiture, est-ce que je stérilise mes bocaux et comment je fais ?
Alors les bocaux, c'est très très important. On peut même récupérer des bocaux, par exemple un ancien pot de cornichon ou autre, ça c'est pas un problème. Les pots à vis, on les fait bien bien bouillir dans de l'eau, au moins 30 minutes.
Est-ce que j'étiquette mes confitures en y notant la date et la composition ? En deux mots, en fait, combien de temps ça se conserve ?
Une confiture qui est pas mal sucrée, elle va se conserver un an à peu près. Indispensable l'étiquette. Déjà pour faire joli, mais en plus parce qu'il faut vraiment savoir à quel moment on a fait la confiture. Et puis surtout, des fois, il y a des confitures dont la couleur se ressemble et on ne sait plus exactement si c'est de la fraise, de la framboise, surtout si on la passe et qu'on ne voit pas les petits grains. Moins la confiture est sucrée, on essaye de consommer dans les mois qui arrivent. En fait, ça, c'est très important.
Si à l'ouverture, ma confiture présente, vous savez, une sorte de petite couche de moisie. Alors moi, je sais qu'à la campagne, on enlevait cette couche de moisie et puis on mangeait ce qu'il y avait en dessous. C'est bon,
oui,
ça ou
bon,
pas ?
Oui, c'est pas très ragoûtant, mais quelquefois, c'est pas forcément du moisie. Très souvent, on fait une erreur quand on fait la confiture, on prend pas le temps d'écumer. Donc vraiment, il faut prendre l'écumoir, écumer, parce qu'il peut se former une toute petite couche blanche qui va rester et un petit peu s'abîmer. Et ça peut être justement la cause de cette petite couche pas très ragoûtante. Donc évidemment, on peut prélever cette
on
couche
et ce
qu'il y a
quoi.
Dessous, voilà. On n'en mourra pas.
Bon, est-ce qu'il me faut absolument une bassine en cuivre ou est-ce que je peux la faire dans une casserole normale ou dans un faitout ? Enfin, je ne sais pas.
Non, alors si on en fait beaucoup, c'est sûr que c'est sympa. Pourquoi la bassine en cuivre ? Parce que c'est un grand contenant. Souvent, on ne fait pas une grosse quantité à la fois. Moi, j'ai une très grande casserole en cuivre. C'est même pas 3 kilos de fruits à la fois, même pour une très grande casserole, parce qu'il faut vraiment que ça cuise très, très bien. Alors, on fait une quantité raisonnable, c'est-à-dire que ça ne dépasse pas trop la moitié de la casserole. On peut utiliser, bien évidemment, une bonne cocotte en fonte, ou alors si vous avez une casserole avec un fond très épais. Et on écume, je le répète, très important, on écume régulièrement.
D'accord, et l'écume, je peux la manger. Bah non, mais c'est ça, en fait, on ne va pas jeter.
Alors, chaque confiture, 3 kilos. Alors, ce n'est pas ma faute, hein. Vous ne me balancez pas votre nutritionniste, je n'y suis pour rien.
Bah non, mais c'est ça qui est bon. Alors, concrètement, vous allez après nous donner la recette de la confiture de tomate verte. J'adore cette idée. Néanmoins, concrètement, c'est très simple. On a besoin des fruits, on a besoin du sucre. On met tout ça dans la bassine et on laisse cuire.
Il y a quand même deux astuces.
Alors, allez-y.
Si on n'utilise pas de fruits avec beaucoup de pectine, tout à l'heure je vous citais le coing, la pomme, la poire, etc. Eux, ils sont bourrés de pectine, pas de problème pour faire des confitures. Mais si on utilise par exemple des cerises, des fraises, des framboises, etc., il n'y a pas trop de pectine. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a deux écoles. Soit on fait mariner les fruits la veille avec le sucre et on met du jus de citron. Parce que le jus de citron, ça va aider à faire prendre en fait la confiture.
Okay.
Ou alors, on peut utiliser des sucres qui ont déjà un petit peu de pectine. Ça va donner en fait ce côté un peu plus lié à la confiture. Et sinon, eh ben, si on a le temps, on laisse réduire, parce que c'est ça aussi qui fait la texture. On prend le temps de bien bien laisser cuire le fruit. Et on a la petite technique de l'assiette que vous connaissez peut-être que votre grand-mère vous l'a expliqué. En fait, on prend une assiette, on la met au réfrigérateur quand elle est bien froide. On va prendre un tout petit peu de confiture dans la bassine, dans votre casserole, et vous mettez cette confiture sur l'assiette. Vous penchez l'assiette. Si la confiture glisse d'un coup, elle n'est pas cuite du tout. Et si elle adhère bien à l'assiette, ça veut dire qu'elle est cuite.
Très bien, je ne connaissais pas ce truc. Alors, la recette de la confiture de tomate verte. Sonia Esguignon, on vous écoute.
C'est la recette de la fin du potager. En fait, cette année a été une année catastrophique pour le potager. Il y avait plein de tomates qui n'ont pas poussé. Donc, on a l'occasion de savoir quoi faire avec ces tomates. Alors, pour une dizaine de tomates, ça va représenter à peu près 500 grammes de chair de tomate. Ces tomates, donc bien vertes, pas mûres, on va les couper en tout petits dés. On va les faire mariner en fait avec 250 grammes de sucre, donc ce que je vous expliquais, hein, la moitié de sucre, et une gousse de vanille. Donc ça, on laisse mariner toute une nuit. Je rajoute un tout petit zeste de citron, Et puis, en fait, le lendemain, je vais mettre tout ça dans une grande bassine ou dans une cocotte et je vais faire cuire. Là, je ne fais pas le test de l'assiette. J'ai un autre truc pour savoir quand c'est cuit. On regarde, en fait, les petits dés de tomates et dès qu'ils sont translucides, la confiture de tomates est parfaite. Alors là, ce qui est top, c'est que c'est une confiture qui va aller aussi bien pour la tartine du matin que pour le plateau de fromage. C'est délicieux avec un chèvre frais, c'est délicieux aussi avec un reste de viande, par exemple, comme une viande froide, comme le poulet ou autre.
Juste pour info pour nos auditeurs, la cuisson, ça dure combien de temps? C'est plusieurs heures?
Non, si c'est plusieurs heures, on n'a plus rien.
D'accord.
Alors, je dirais la cuisson, on va dire 35 minutes, 40 minutes.
Oui, c'est super rapide, très bien.
Et avec 500 grammes, je fais à peu près 3 pots.
Voilà.
3 pots classiques de taille à peu près classique.
Merci beaucoup, Sonia Esgulian,
pour tous ces conseils. C'était un bonheur,
comme toujours. Voilà, et on va faire des confitures ce week-end. Merci à vous. Je rappelle votre page Instagram, on y retrouve plein de recettes et évidemment celle de la confiture de tomates vertes. Merci et à bientôt. Salut Sonia. Là, c'est fini. Nous voilà bien, s'achève. Mais haut les cœurs, on se retrouve samedi prochain, évidemment, dès 9h15. Et en attendant, vous pouvez réécouter l'émission sur l'appli RTL et sur toutes les plateformes partenaires. Quant à la recette du jour, elle vous attend sur RTL.fr. Je vous retrouve également dès lundi à 20h sur RTL pour Jour J. C'est le magazine qui nous replonge dans les grands événements de l'actualité qui ont jalonné notre histoire collective. Juste après les infos, RTL vous régale. Prenez bien soin de vous, passez un excellent week-end à l'écoute de votre radio préférée. Je vous embrasse.
Flavie Flamand sur RTL.